Hello et bienvenue sur A New How Did You Make It, le podcast au sein duquel nous explorons chaque étape qui a construit le parcours professionnel de personnes les plus différentes les unes des autres, à travers la découverte de leurs habitudes, de leurs passions et de leurs intérêts au cours des dernières décennies. Moi c'est Yosra et aujourd'hui on rencontre Chérif. Chérif est égyptien, francophone et anglophone, et il a vécu dans de nombreux pays. Il t'explique comment il a découvert l'univers du consulting et de la tech, et comment il s'est retrouvé là. Dans cet épisode, chaque expérience est accompagnée de précieux conseils. Si t'es timide, si t'as pas confiance en toi ou si t'oses pas sortir de ta zone de confort, il te donne des activités pratiques pour travailler sur ça, pour surmonter ça. Il te racontera son engagement associatif, par exemple, dès sa première année universitaire. T'es prêt? T'es prête? Prends des notes surtout et partons à sa rencontre. Hello Chérif et bienvenue dans l'émission. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter.
Merci beaucoup Yosra, c'est un plaisir d'être sur ce podcast. Au début, je dois te dire désolé pour mon français un peu rouillé comme un vieux vélo, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé couramment de français, mais je vais me présenter. Alors, je m'appelle Chérif, j'habite à Dublin, en Irlande, depuis 3 ans et demi à peu près. Avant ça, j'habitais à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pendant 5 ans. Je suis égyptien. Donc, j'ai vécu un peu en Égypte, j'ai étudié là-bas et j'ai vécu dans plusieurs pays aussi quand j'étais plus jeune. Et en ce moment, je travaille comme manager de risque dans une compagnie de fintech, donc de technologie financière. C'est identifier, évaluer, prévenir et gérer les risques auxquels une compagnie fait face. Ça, c'est mon job actuel, mais j'ai eu plusieurs jobs avant ça dans plusieurs domaines.
J'ai hâte d'en parler un peu plus en détail. Et est-ce que tu peux commencer par nous donner ta définition du succès?
Alors, je pensais au nom de ton podcast, And You, How Did You Make It? Et je me disais que personnellement, je ne considère pas que I've made it yet, pas encore au moins. Pour moi, c'est un processus et ça correspond en fait à ma définition du succès. Je pense que le succès, il peut varier selon la personne. Il y a une définition un peu étroite du succès, c'est d'atteindre un objectif désiré, que ce soit sur un plan professionnel, financier, personnel, etc. Par contre, je trouve que ça capte pas vraiment la complexité du succès comme concept. Oui, il y a le côté sentimental, il y a l'épanouissement, il y a la fierté de ce qu'on devient. Mais aussi, il y a la reconnaissance de la part de la société, de la part de la famille, des amis, de la communauté, etc. Et ce n'est pas dans un seul domaine, que ce soit le domaine professionnel, personnel ou spirituel, etc. Mais je pense qu'il y a toujours un équilibre qui doit être maintenu ou achevé entre ces domaines. Pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'une destination, mais d'un chemin. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un parcours, en fait. C'est un processus qui inclut certainement des échecs, des doutes, des difficultés. Mais le vrai succès, c'est d'avoir la capacité de se lever, de continuer, de retrouver son chemin ou de recommencer même, ou de créer même un nouveau chemin ou une nouvelle piste, si possible. Et ça fait partie d'une vue un peu plus holistique ou plus générale du succès.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le succès a plusieurs facettes et s'arrêter au succès professionnel, entre guillemets, ça te limite d'emblée. Et c'est effectivement un parcours bien, bien, bien plus complexe. Et je tiens à souligner ce que tu viens de mentionner, ce que je trouve très très important et j'espère que les personnes qui nous écoutent auront bien pris des notes sur ces éléments, c'est que, en fait, c'est un parcours, c'est un chemin qui sera rempli de doutes, d'échecs et de difficultés, face auxquels tu seras peut-être armé ou pas pour y faire face, mais l'important c'est de te relever et redéfinir ton propre succès autant de fois qu'il le faut.
Absolument. Et je pense que parfois, on focalise trop sur le succès professionnel ou financier dans la vie. Mais ce qu'on réalise après, c'est qu'un équilibre, en fait, entre les différents domaines est crucial.
Oui.
Et personnellement, ça pourrait être choquant, ce que je vais dire, mais je ne crois pas trop dans ce qu'on appelle le work-life balance, dont on parle toujours. Donc, l'équilibre entre le travail et la vie. Parce que c'est une vision un peu, erronée de la nature du travail, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le travail, ça impacte notre vie, certainement. Il n'y a pas cette dissociation entre le travail et la vie. Parce que si on va au travail chaque jour et on déteste le travail qu'on fait ou qu'on interagit avec des gens qu'on n'aime pas trop, ça va certainement impacter le reste de notre vie. Donc, et on travaille vraiment pendant la plupart de nos journées, donc, ou la moitié de nos vies même. Et donc, cette dissociation entre travail et vie personnelle n'a pas trop de sens pour moi. Pour moi, il y a toujours l'un impacte l'autre. La vie personnelle impacte le travail et le travail impacte la vie personnelle. Et c'est pour ça que je pense à un équilibre entre ces domaines professionnels, personnels, etc., dont la définition du succès est très important.
Bon, sans vouloir te faire flipper, tu passes autant de temps au lycée actuellement ou au collège ou pendant tes cours qu'au taf, voire plus. Donc, si tu te rends compte que l'équilibre n'existe pas forcément, trouver quelque chose qui te plaît, que tu vas devoir faire tous les jours, c'est assez, assez crucial.
Absolument, absolument.
Ce sont des très bons points, merci Chérif. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes années collège? Quel type d'élève étais-tu? Si tu avais des passions, des intérêts, des habitudes? Ou si tu avais une matière que tu préférais plus qu'une autre?
Je pense que j'étais pas vraiment un étudiant brillant. J'avais pas les meilleures notes, etc. Il y a eu une transformation qui s'est passée plus tard dans le lycée et à l'université, mais au collège, vraiment, j'étais un peu confus d'abord parce que j'ai changé de système éducatif plusieurs fois. Au début, j'étais en Égypte. Ensuite, j'ai bougé parce que, vu la profession de mon père, on bougeait chaque quelques années dans un pays différent. Donc, j'ai bougé au Mozambique pendant 3 ans. Et j'ai intégré une école française là-bas. Tandis qu'en Égypte, j'étais dans une école égyptienne, mais francophone, mais qui enseignait le curriculum égyptien. Et donc, il y avait beaucoup de confusion. Je me souviens, par exemple, qu'en Égypte, en entrant en classe, on se mettait debout d'abord jusqu'à ce que le professeur nous demande de nous asseoir. Si on nous pose une question, on devait se lever. Après, je suis allé au Mozambique, dans une école française. Et là, c'était complètement différent. J'étais confus au début. On me posait une question et je me levais. Tous les autres élèves rigolaient parce que c'était complètement différent de ce qui est connu là-bas. Et ça a impacté un peu ma compréhension des matières, du système, etc. J'avais pas énormément de passion non plus, je me souviens pas en tout cas. Mais ce que j'ai appris, c'est de m'adapter en fait. J'ai dû l'apprendre parce que changer d'un système à un autre, quand on est si jeune, donc ça m'a poussé à m'adapter rapidement, faire l'expérience de nouveaux contextes. Et ça a resté avec moi jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Effectivement, si tu es amené à changer d'établissement, changer d'environnement assez régulièrement ou même ponctuellement, tu vas développer une capacité d'adaptation qui va t'être utile tout au long de ta vie. Est-ce que tu avais des habitudes durant ces années-là, par contre ?
Pas vraiment. J'avais pas tellement de passion ou d'habitude. Et ça m'a appris à quelque chose, en fait, parce que j'ai développé ces passions et ces habitudes plus tard. On peut croire qu'on n'est pas bon à quelque chose, mais ça ne veut pas dire que cette situation va rester pour très longtemps. Tout peut changer. Y a des phases de nos vies où peut-être on n'a pas des bonnes notes, ou on n'est pas brillant en classe, ou on ne fait pas de trucs intéressants à l'extérieur de l'école. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Donc, tout ça pour dire que pendant les années collège, vu cette confusion, j'ai commencé en Égypte, ensuite je suis allé au Mozambique pendant 3 ans, ensuite je vais retourner en Égypte dans une école différente. Donc, après ce que j'ai expérimenté au Mozambique, dans une école française, j'ai intégré une école catholique, une école de garçons uniquement. Le système était complètement différent. On avait un uniforme, c'était tellement différent de ce que j'avais vécu au Mozambique. Et donc, c'était encore une fois un choc. Après le premier choc que j'ai vécu au Mozambique, après avoir bougé là-bas. Et donc, tout ce changement, ça m'a perturbé un peu. Et donc, tout ça pour dire que j'ai pas un souvenir de sport particulier ou de passion dans lesquels j'étais intéressé, non.
C'est effectivement très compliqué dans ce cas de figure et dans des cas de figure similaires de se créer une sorte de routine, des habitudes, surtout à cet âge-là.
Absolument, ça demande une certaine stabilité. Et ça demande d'avoir une communauté aussi. Et quand on bouge beaucoup, surtout quand on est enfant, même si c'est enrichissant comme expérience, c'est perturbant quand même sur le niveau social parce qu'à chaque fois, on change l'école, on change les amis, on change... Et tout ça, ça impacte aussi les pratiques.
Non, c'est juste... Et est-ce que tu as un souvenir d'un moment qui t'a rendu très fier à cet âge-là?
Alors oui, je pense que j'étais fier juste de ma capacité à m'adapter en fait à ces différents contextes parce que à chaque fois que je changeais l'école et que je changeais les amis et par exemple quand j'ai bougé au Mozambique dans une école complètement française donc tout le monde parlait français, c'était nouveau pour moi, mon français n'était pas très bien, il est toujours pas très bien mais bon, j'ai dû vraiment m'adapter et créer des amitiés dans une nouvelle langue parce qu'en Égypte, on parlait, même si c'était une école francophone, on parlait tous en arabe. Et juste intégrer ce nouveau contexte et réintégrer un nouveau contexte plus tard quand je suis entré au Caire. Ça a demandé tellement d'efforts d'abord, d'ouverture d'esprit. Et une capacité que j'ai pu développer, en fait, ça n'a pas apparu d'un seul coup. Mais c'était un processus et ça s'est développé avec le temps. Je me souviens quand je suis rentré en Égypte plus tard, juste un an avant le lycée, je crois. Et comme je t'ai dit, c'était une école de garçons uniquement. Déjà, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et quand les autres élèves m'ont vu, c'était comme si je suis venu d'une planète différente, vraiment, parce que je n'avais pas le même langage qu'eux, je n'avais pas les mêmes habitudes. Et donc, ils commençaient à me poser des questions, d'où tu viens, etc. Donc, c'était vraiment un choc pour moi, pour eux, et ça a pris beaucoup d'énergie, de temps.
Du coup, si tu as changé plusieurs fois d'établissement ou plusieurs fois de prof au collège, accroche-toi. Sois fier de toi. Et encore une fois, dis-toi que tu développes une capacité d'adaptation qui t'aidera tout au long de ta vie. Tu avais reçu quoi comme conseil quand tu étais encore au collège?
Oui, alors, vu cette situation que j'ai décrit, cette nécessité de s'adapter au nouveau contexte, le conseil que j'avais reçu, c'était de demander de l'aide, en fait. Et c'est un conseil que j'ai reçu de mes parents, de mes profs. Parce que comme au moins au début, j'avais des difficultés, il fallait en fait demander de l'aide aux autres élèves, aux autres, aux professeurs, à mes parents, pour digérer en fait tout ce qui se passe, pour digérer les leçons, etc., comprendre ces nouveaux systèmes, comprendre même le niveau milieu social où je me suis retrouvé. Et pour pouvoir interagir en fait avec les autres, avec le système éducatif, etc. Donc c'était ça en fait, demander de l'aide que et c'était un conseil brillant parce que ça a resté avec moi en fait pour le reste de ma vie vraiment jusqu'à maintenant.
Demander de l'aide c'est si important et c'est quelque chose que tu dois toujours garder en tête parce que on est tous et tous en train d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose pour la première fois. Donc, demander de l'aide à quelqu'un qui est déjà passé par là, ça ne te fera pas forcément avancer plus vite dans ta vie pro ou perso, mais ça te donne les informations dont tu as besoin pour mieux avancer.
Absolument. Et vraiment, on est parfois surpris comment les gens en fait, sont prêts à aider. Bien sûr, il y aura toujours un petit pourcentage de gens qui ne sont pas prêts à aider ou qui sont un peu hésitants pour une raison ou une autre. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens sont en fait contents d'aider et contents de partager leur expérience et leur réseau et d'aider les autres si on le fait de la bonne manière. Et ça, je crois qu'on va en parler plus tard. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que un autre conseil peut-être que je n'ai pas reçu explicitement, mais c'est en fait, bien sûr, c'est de développer cette capacité à s'adapter, mais aussi à avancer en fait dans la vie, à ne pas être coincé dans le passé. C'est bien, bien sûr, d'avoir des bons souvenirs des années d'avant ou d'une autre école où on était avant ou d'un autre pays ou d'une autre ville. Mais c'est important aussi de ne pas trop regarder derrière et de ne pas trop vivre dans le passé et en fait d'avancer, parce que j'ai vécu ça en rentrant du Mozambique en Égypte, parce que l'école en Égypte, c'était beaucoup plus dur, c'était beaucoup plus strict. Et en fait, au début, bien sûr, j'avais des bons souvenirs de mon école au Mozambique, où j'avais vécu 3 ans quand même à la fin, même si c'était difficile au début, mais à la fin des 3 ans, on s'adapte et on fait des amis, etc. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que, alors, j'ai fait des amis, ensuite je les quitte, et après je vais dans un autre endroit, et après je les quitte, etc. Et donc, quelque chose que j'ai appris, c'est il faut toujours avancer, il ne faut pas trop rester dans le passé, ou au moins que ça ne nous empêche pas, en fait, de se développer et d'avancer dans la vie. Et aussi de ne pas se plaindre tout le temps, parce que ça épuise l'énergie. C'est bien de comprendre ces sentiments négatifs. Il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer.
En fait, on reconnaît clairement que tous ces changements sont hyper durs à vivre. Mais c'est clair qu'il faut que tu avances, que tu gardes tous ces bons souvenirs. Mais si tu dois partir, dis-toi que si tu as pu te faire des potes à un moment, tu peux t'en faire. Et si ça a été difficile de t'en faire, et ben là, c'est une nouvelle opportunité de t'en faire. Et à la fin, tu pourras te dire que tu as des potes dans différents lieux.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. Et franchement, moi, je crois qu'on apprend plus des expériences négatives que des expériences positives, parce que vraiment, c'est à travers les expériences qui sont dures qu'on apprend le plus et que ça crée, en fait, notre caractère.
Ouais, c'est clair. Et maintenant, Chérif, tu es actuellement en Égypte et tu passes au lycée. Est-ce que tu peux me dire quel type d'élève tu étais et si tu avais des passions, des intérêts, s'il y avait des choses qui se dessinaient?
Alors, les années de lycée, les choses avaient vraiment changé par rapport aux années de collège. Cette phase d'adaptation que j'ai décrite était finie, était accomplie d'une manière ou d'une autre. J'étais rentré en Égypte, donc j'étais dans cette école. J'étais dans la section littéraire du bac égyptien. Et le bac égyptien, c'est une expérience intéressante parce que c'est énorme, c'est tellement énorme comme expérience. C'est une expérience traumatisante pour les parents, pour les élèves. C'est quelque chose dont on parle tout le temps. C'est comme s'il y avait un état d'urgence dans les maisons ou dans les appartements parce que le système éducatif égyptien est construit d'une manière que tes notes dans le bac déterminent à peu près le reste de ta vie. Bon, pas comme ça, mais déterminent en fait quelle faculté ou quelle université tu peux intégrer, parce que en fait, tu choisis ce que tu veux étudier en fonction de tes notes. Mais une chose qui était cruciale dans le bac égyptien, c'était l'apprentissage par cœur. Et ça, bien sûr, je détestais, parce que on devait apprendre les choses par cœur et le système, en fait, était conçu de cette manière pour encourager ce type d'apprentissage. Et moi, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais comprendre les choses plutôt. Et j'ai réalisé que je pouvais en fait établir un équilibre entre les deux, entre comprendre les choses, mais aussi apprendre par cœur. Et j'ai appris les choses par cœur en les comprenant. Donc, une fois que j'avais compris la leçon ou la matière, je pouvais en fait la réciter. Bon, je ne vais pas dire réciter parce que ce n'est pas mon mot par mot, mais je pouvais expliquer le contenu de ces leçons. Donc, tout ça pour dire que pendant les années lycée, tout a vraiment changé. Je suis devenu un élève brillant. J'avais de très bonnes notes. J'étais le premier sur la section littéraire. Et c'était une transformation vraiment un peu d'un extrême à un autre parce que même moi, je n'avais pas compris. Et ça m'a appris aussi quelque chose que vraiment parfois, on retrouve en fait une flamme qui est dans soi-même. Il faut juste être dans le bon contexte et être stable et être confiant de soi-même.
Et question qui peut être très difficile, comment tu gagnes confiance en toi?
Ah oui, puis
surtout au lycée.
Alors, c'est une question très, très complexe et difficile. Je crois qu'il y a des facteurs internes à la personne elle-même et des facteurs un peu externes qui concernent le contexte extérieur. Donc, l'école, la famille, les autres élèves, les professeurs, etc. Alors, les facteurs internes, c'est un peu de trouver une passion ou de chercher, en fait, une passion pendant les années lycée. De développer le sentiment qu'on cherche quelque chose et qu'on n'est pas complètement juste perdu. Oui, c'est OK de se perdre des fois. Chercher un chemin, au moins. Et ensuite, il y a cette interaction entre ces facteurs internes et ces facteurs externes. Donc, la manière dont on se présente à l'école ou devant les autres élèves ou devant sa famille ou devant les profs, ça leur encourage aussi à nous aider à trouver nos passions, à trouver nos chemins. Et cette interaction, en fait, augmente la confiance en soi-même. Ça, c'est ce que je pense.
Ouais, donc, il y a plusieurs façons de gagner confiance en soi. Et un bon exemple, et ça peut prendre la forme d'un sport, d'une pratique comme le théâtre ou quelconque activité un peu plus artistique. Tu le verras en fait à travers plusieurs épisodes. Je poserai cette question un peu à tout le monde et il y aura toujours une réponse assez différente. Donc, c'est à toi d'un peu explorer et de faire preuve de curiosité et d'identifier un truc qui pourrait vraiment te plaire et que tu peux apprendre sans pression. Sans pression d'avoir en fait une évaluation.
Je suis complètement d'accord.
C'est pas les notes qui nous donnent confiance en nous-mêmes. Oui, bien sûr, avoir une note, une bonne note, ça nous rend heureux ou ça booste un peu notre confiance.
Ça prend du temps de trouver ses intérêts et ses passions, mais t'inquiète, ça arrivera. Sinon, Chérif, tu nous disais que tu as choisi de passer un bac littéraire. Tu te rappelles pourquoi tu as fait ce choix?
Oui, je me rappelle bien, parce que c'était vraiment passionné par tout ce qui est politique. Et ça a un lien avec un contexte un peu... intéressant qui se déroulait en Égypte à l'époque. Alors là, je parle des années 2005, entre 2005 et 2008. Il y avait beaucoup d'événements politiques en Égypte et dans la région du Moyen-Orient où j'étais situé. Il y avait une certaine ouverture politique, il y avait du journalisme indépendant, il y avait des nouveaux médias qui apparaissaient et qui offraient des analyses, des documentaires. Il y avait des conflits, bien sûr. Donc, tout ça pour dire, il y avait un contexte politique assez dynamique qui m'a vraiment inspiré. Et je commençais à lire des journaux, je commençais à regarder des documentaires. Il y avait Al Jazeera à l'époque qui était énorme en Égypte et dans la région. Et tout ça, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a passionné. Et quand je parle de politique, c'est vraiment plusieurs disciplines en une. C'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de l'économie, etc. Et donc, j'ai commencé à développer cet intérêt. Donc, en lisant des livres, en lisant les journaux, en regardant des documentaires, en regardant les informations, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu intégrer la section littéraire.
C'est super intéressant. Et Pour en revenir à ton niveau d'études, comment as-tu réussi à devenir brillant? Est-ce que tu travaillais tes cours rigoureusement le soir, tous les soirs? Est-ce que tu avais une méthodologie spécifique?
J'avais vraiment trouvé une passion pour les matières pendant le bac. Vu que j'étais dans la section littéraire, donc la plupart des matières vraiment étaient intéressantes pour moi. Et j'ai trouvé une certaine passion en fait en créant des fiches, en écrivant à la main aussi, parce que on nous dit toujours que quand on écrit à la main, ça rentre dans le cerveau. Je me souviens de ça. Je partageais ces fiches avec mes amis plus tard. Aussi, j'essayais d'utiliser les différents moyens pour que les informations et les leçons rentrent vraiment dans ma tête. Donc oui, en écrivant à la main, mais aussi en disant les choses à haute voix. Donc parfois, je prétendais que j'étais un professeur moi-même et que j'expliquais à des élèves devant moi. Et je prétendais qu'il y avait des élèves qui ne comprenaient pas. Et donc, je répétais ce que je disais. Et à travers cet exercice, j'apprenais vraiment plus rapidement. Et aussi, c'était vraiment fun. C'était amusant comme exercice. Et parfois, je faisais ça avec mes amis. J'avais des amis qui avaient des difficultés peut-être à apprendre des leçons. Et j'allais les aider, en fait. Que ce soit à l'école, que ce soit chez eux. En aidant mes amis et mes camarades, je m'aidais moi-même et ces leçons que j'expliquais à mes amis, ça rentrait vraiment dans ma tête. Et ça m'a appris quelque chose aussi plus tard parce que dans ma carrière, j'ai appris qu'il faut vraiment aider les autres gens parce que parfois, on rentre dans cette dynamique de compétition et on pense qu'il faut vraiment être égoïste pour réussir ou pour avoir une promotion, etc. Tandis qu'en réalité, oui, en aidant les autres, que ça ne nous empêche pas, en fait, de réussir dans quelque chose. Au contraire, sur le long terme, ça nous aide.
Finalement, donner, ça t'apporte tellement. Si tu as une personne en face de toi et tu essayes de lui expliquer quelque chose que tu pensais maîtriser parfaitement et que tout d'un coup, elle te pose une question sur un élément auquel tu n'avais pas du tout pensé, ça te défie. Ça te pousse, en fait, à la réflexion et...
Exactement. Tu penses à un autre angle et tout, oui.
Par conséquent, ça va améliorer tes connaissances. Et on va terminer sur un conseil que tu avais peut-être reçu au lycée, peut-être au sujet de ton orientation, car tu nous disais que tes notes allaient décider de ton avenir.
Oui, comme tu as dit, c'est comme ça que le système a été conçu. Ça voulait dire qu'il fallait avoir des bonnes notes pour choisir sa faculté ou son université plus tard. Je trouvais ça absurde comme système, comme beaucoup de gens le trouvaient absurde ou... Par contre, ça m'a appris quelque chose, que parfois, il faut juste jouer le jeu. Il faut avoir cet équilibre entre, oui, poursuivre ses passions, trouver vraiment ce qui nous passionne, ce qu'on aime. Le système n'est pas parfait. Parce que le système, par définition, c'est fait pour accommoder les masses, pour tout le monde. Parfois, pour avancer aussi, il faut comprendre comment le système marche et de jouer le jeu du système. C'est-à-dire, oui, le conseil qu'on m'a donné, c'est qu'il faut avoir des bonnes notes. Moi, je trouvais des matières passionnantes, mais aussi je réalisais qu'il y a une certaine manière de laquelle on doit répondre aux questions dans l'examen, par exemple, qui peut-être n'a pas trop de sens pour moi ou qui est un peu absurde. Mais pour avoir des bonnes notes et pour intégrer la faculté ou l'université que je voulais, il fallait répondre de cette manière ou il fallait apprendre quelque chose par cœur. Parce que je sais que même si je comprends la leçon et que je pouvais l'expliquer à travers mes propres mots, peut-être ce n'était pas suffisant pour avoir une bonne note dans cette matière. Et donc, je comprenais qu'il fallait en fait faire quelque chose avec laquelle je n'étais pas très d'accord. Mais aussi, ça fait partie de l'expérience. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, même dans le travail, à l'université. Parfois, il faut faire des parties qu'on n'aime pas trop avec lesquelles on n'est pas d'accord ou d'interagir avec des gens qu'on n'aime pas. Ça fait partie de la vie et du parcours éducatif et professionnel plus tard.
C'est vrai. En fait, ce qu'on attend de toi, c'est de jouer le jeu du système. Qu'est-ce que le prof attend de toi? Qu'est-ce que ce cours attend de toi? En gros, garde en tête que si tu joues le jeu, tu auras toutes les cartes en main pour intégrer le parcours que tu veux, l'école que tu veux, quand tu auras enfin décidé quoi faire. Et même bénéficier d'une bourse, si tu en as besoin, pour étudier là où tu te trouves ou dans un pays qui t'intéresse.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours focaliser sur l'objectif, en fait, ce qu'on veut atteindre à la fin. Et pour atteindre quelque chose, oui, on peut faire des choses qu'on aime bien ou qui nous passionnent, mais aussi il faut faire les choses qui ne nous passionnent pas trop ou étudier les matières qu'on n'aime pas trop. Et ça nous apprend quelque chose, vraiment. Et comme j'ai dit, on apprend plus des expériences négatives que des expériences positives. On apprend plus en apprenant des choses qu'on n'aime pas que quand on apprend des choses qui nous passionnent, parce que là, c'est plus facile. Ça rentre directement dans notre cerveau. Tout est vraiment préparé pour qu'on comprenne ce sujet ou pour qu'on le digère. Par contre, l'autre matière ou l'autre sujet ou l'autre sport ou quoi que ce soit, qu'on n'aime pas trop. Et là, c'est là qu'on développe vraiment la capacité intellectuelle ou mentale pour pouvoir la faire. Parce qu'il y a une résistance déjà de soi-même. Donc, c'est en évitant ce blocage mental ou cette résistance en nous pour apprendre quelque chose qu'on n'aime pas. C'est en évitant cette résistance que vraiment on développe le caractère ou la capacité qui va vraiment rester avec nous pendant des années et des années.
Oui, donc concentre-toi sur l'objectif, accepte la difficulté et ça t'aidera à tout donner, même si tu n'aimes pas les cours. Chérif, tu peux nous expliquer comment tu as fait ton choix post-bac ?
Alors, comme j'étais passionné vraiment par la politique, j'ai voulu certainement intégrer une école ou une faculté qui enseignait la science politique. C'est pour ça que j'ai fait mon choix. J'étais en Égypte à l'époque, au Caire. Et c'est comme ça que j'ai intégré la faculté d'économie et de sciences politiques à l'université du Caire. Il y avait une filière francophone. Donc, une partie de l'enseignement se faisait en français, une autre partie en arabe, une petite partie en anglais. Et cette faculté avait aussi, cette filière avait des partenariats avec des universités en France et tout. Donc, on recevait des professeurs visiteurs de l'université française. Donc, alors, comme j'ai expliqué avant, le système du bac égyptien, cette faculté en particulier, c'était la faculté la plus prestigieuse, surtout pour la section littéraire. Donc, il fallait avoir les meilleures notes pour pouvoir intégrer cette faculté. Et donc, heureusement, comme j'ai eu des bonnes notes et un bon pourcentage, j'ai pu intégrer cette faculté.
Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur expliquer la science politique, qu'est-ce que c'est ?
La science politique, c'est une science sociale. Donc, ce n'est pas une science dure. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la biologie, ce n'est pas de la médecine, etc. C'est l'étude d'un phénomène social. Et ce phénomène social, c'est le phénomène du pouvoir du gouvernement, des relations internationales. C'est un phénomène sociétal aussi, les relations de pouvoir dans une société, entre une société et le gouvernement. Qu'est-ce qu'un gouvernement ? Pourquoi il y a un gouvernement déjà ? Donc il y a un peu de philosophie. C'est quoi cette idée de gouvernement ? Pourquoi on a un président ? Pourquoi on a un premier ministre ? Pourquoi il y a un premier ministre en France, mais il n'y a pas un premier ministre aux États-Unis ? Pourquoi il y a un président en France, mais il y a un roi au Royaume-Uni. Donc, tout ça, c'est des systèmes politiques différents. C'est une manière de gouverner un pays ou un territoire qui est différente l'une de l'autre. Et donc, la science politique, c'est l'étude de tout ce phénomène de relations entre les pays et la science. Tout ça, ça rentre sous la science politique, mais ça touche aussi sur d'autres domaines.
Super. Et en termes d'expérience professionnelle, est-ce que tu as fait un stage ou est-ce que tu as eu un séjour à l'étranger ? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous ?
Absolument. Alors, moi, un objectif que je me suis fixé en intégrant l'université. Alors, d'abord, c'était de participer à des activités un peu extra-universitaires, même si c'est au sein de l'université, en fait, pendant les études. On avait une vie étudiante assez active, en fait. ce qui était brillant et ce qui est le cas dans la plupart des universités, je veux dire. Donc, tout ce qui est simulation d'organisation internationale, donc tout ce qui est MUN, donc simulation des Nations Unies. Et pour ceux qui ou celles qui ne savent pas ce que c'est une simulation d'une simplement d'une organisation internationale. Donc il y a les Nations Unies à New York ou à Genève ou à Vienne. Il y a des conseils, il y a des diplomates, des responsables qui se rencontrent et qui discutent de sujets politiques, sociaux, économiques, etc. Ça c'est dans la vraie vie. Et ce qu'on fait dans les simulations, c'est qu'on fait une simulation, en fait, de ces endroits-là, de ces discussions. Et donc, moi, je prétends que je représente la Suisse, tu prétends que tu représentes la Chine, et les autres, ils font la même chose, et on discute d'un certain sujet, et on adopte la position de ces pays ou de ces organisations. Et c'est brillant comme exercice. Alors, ça touche, c'est sur des sujets intéressants, parce que on doit préparer ces sujets, en fait, d'abord. Si on parle du changement climatique, par exemple, il faut comprendre ce que c'est, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre la position des pays ou des acteurs qu'on représente. Deux, ça nous apprend à bien communiquer avec les autres. Trois, c'est une activité sociale brillante parce qu'on connaît des gens, on devient ami avec des autres et c'est vraiment fun. C'est comme si c'était on jouait dans un film. on prend le rôle de quelqu'un d'autre, on prétend qu'on représente un autre pays et c'est brillant.
Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est des assos étudiantes, c'est des associations étudiantes que vous pouvez rejoindre sans souci. C'est-à-dire que c'est vraiment des structures qui vous invitent à les rejoindre, qui ont des... réunion d'intégration et qui vous invite à participer. Et ça existe dans plusieurs universités, comme le dit si bien Chérif. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Yovana, donc la personne que j'ai interviewée en tout premier. Et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré plusieurs personnes qui seront également invitées sur ce podcast. Donc, non seulement vous allez pouvoir vous lier d'amitié avec des personnes géniales, mais aussi vous allez pouvoir apprendre tout plein de choses. J'en suis sûre qu'on va échanger sur le sujet également. C'est tout plein de compétences, c'est aussi une aisance à l'oral, c'est... En fait, ça vous sort de la structure universitaire et vous permet en fait de développer des compétences qui sont nécessaires dans le monde du travail. Ok, et du coup, dis-nous en plus, Chérif.
Parfois, ça demande aussi quelques temps. Parfois, ça demande qu'on sorte pendant le week-end pour... organiser une session ou pour assister à une session de ces simulations ou pour faire une activité avec les autres participants. Donc, ça demande aussi quelques concessions qui pourront impacter, bien sûr, l'étude universitaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment créer un certain équilibre pour pouvoir faire les deux. Et je connais des amis ou des membres de ma famille qui étaient dans une école de droit et qui faisaient d'autres activités qui ont lien avec les avocats, par exemple, avec le domaine juridique. Donc, il y a toujours des activités de ce type dans toutes les écoles, dans toutes les universités qui correspondent, en fait, aux différents domaines et aux différents centres d'intérêt. Et parfois, on avait même des étudiants qui venaient de la faculté d'ingénierie, par exemple, de l'école de... On avait des gens qui venaient de l'école de médecine. Mais juste, ils étaient passionnés, en fait, par ce monde d'organisation internationale ou qui voulaient connaître d'autres étudiants ou qui voulaient pratiquer une langue. Et ça aussi, c'est important parce que, par exemple, à l'époque, je parlais pas très bien l'anglais parce que toutes mes études étaient soit en arabe, soit en français. Et une bonne manière de pratiquer son anglais et de l'améliorer, c'était de participer à une activité qui se déroulait en anglais. Et ça, c'était une bonne façon de pratiquer son anglais et de l'améliorer, en fait.
Pratiquer pour s'améliorer, c'est vraiment ce que tu dois garder en tête. Tu bosses tes cours en faisant des exercices. Tu bosses tes cours en les révisant. Tu t'améliores en anglais en prenant la parole en public. Tu t'améliores en expression orale également en prenant la parole au public. Et je te laisse continuer, chef.
Et donc, il y a aussi quelque chose à apprendre à travers cette méthode pour les gens, pour développer un esprit plus critique, pour pouvoir distinguer entre une information ou une réalité et une opinion. Ce qui est difficile un peu maintenant parce que, tu vois, TikTok, ça devient un moteur de recherche un peu. Il faut pouvoir distinguer entre ce qui est une information et ce qui est une opinion du créateur ou de la créatrice de ce contenu. Et donc, pour pouvoir développer cet esprit critique, il faut l'apprendre à travers ce type d'activité, même si on est en train d'étudier, je ne sais pas, l'ingénierie ou la médecine ou la pharmacie, etc.
Ça t'apprend à écouter activement, à découvrir de nouvelles façons de communiquer.
Absolument, oui. Aussi d'interagir avec des gens d'autres écoles, d'autres universités. Et ça ouvre vraiment l'esprit parce que parfois on est vraiment bloqué dans l'endroit où on est, dans l'école où on est, dans notre classe même. C'est à travers cette ouverture d'esprit, en interagissant avec ces autres personnes qui viennent de milieux différents, en termes de parcours, de domaines, d'études, etc. C'est à travers ces interactions qu'on apprend des choses, qu'on crée un réseau, qu'on apprend de différentes perspectives, etc.
Si ça te fait peur et que tu te dis que tu ne vas pas réussir dans cet exercice, rappelle-toi que tout le monde, mais vraiment tout le monde, a commencé quelque part. Et encore une fois, avec la pratique, ça arrivera. Le truc aussi, c'est que les personnes qui rejoignent ce type d'association, ces personnes qui vont t'entourer, vont aussi partager leurs techniques, leurs bonnes pratiques et ce qu'elles ont appris. Et elles vont partager avec toi. C'est un environnement qui est généralement assez encourageant, assez sain. Et mon dernier point sur ce sujet, c'est que si ça t'intéresse un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu ou énormément, c'est aussi l'idée d'accepter de sortir sa zone de confort. C'est ensuite se dépasser pour être beaucoup plus à l'aise sur ce type d'exercice par la suite.
Oui, 100%. Il y a un autre aspect aussi, c'est que parfois on peut avancer sur des domaines un peu plus personnels à travers ce type d'activité. Par exemple, moi, je me souviens, mon première année de l'université, j'étais un peu timide. Je n'étais pas très à l'aise dans les interactions sociales. Je me sentais un peu stressé en entrant dans une nouvelle expérience ou en voyant des gens différents de moi ou des nouvelles personnes. Et c'est en me forçant, en fait, parce que j'ai reconnu l'avantage que je peux avoir en intégrant ces associations, ces activités ou en faisant des stages. Je vais parler des stages dans un moment. C'est à travers cette participation que j'allais développer des compétences sociales parce que je savais que ce sont des compétences aussi importantes. D'avoir un réseau, de savoir comment interagir avec les gens, de savoir quoi dire, de se sentir à l'aise dans un groupe et avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est en reconnaissant ça et c'est en participant dans des activités différentes que j'ai pu un peu surmonter ces difficultés.
On revient sur l'idée que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. En fait, c'est crucial pour avancer et réussir.
Absolument.
Ouais. Absolument. Parfois, parce que la raison pour laquelle on a peur, parfois, c'est exactement la raison pour laquelle on doit faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu veux participer dans cette activité? Cette personne va me dire non, je suis timide. Je vais répondre, c'est exactement pour cette raison-ci. C'est exactement parce que tu es timide que tu dois participer dans ça. Et c'est ça, en fait, c'est ça le défi, c'est ça le challenge. Et c'est en reconnaissant l'importance d'aller à travers cette expérience qu'on avance vraiment et qu'on s'améliore.
Et oublie pas que c'est jamais trop tard de commencer. T'es au collège, t'es au lycée, t'es à la fac, explore, fais preuve de curiosité, essaie. Et ça se trouve, tu vas pas aimer du tout, mais au moins, t'avanceras sans regret. Et en plus de ça, t'avanceras. Donc t'apprendras forcément quelque chose de ça.
Je pense que aussi sur le niveau personnel et psychologique, il faut essayer de ne pas se protéger d'être intimidé ou de ou que quelqu'un nous donne un commentaire qui n'est pas très gentil. Parfois on a peur de ces choses-là et parfois on les agrandit tellement dans nos têtes et c'est même pas vrai ou c'est pas aussi important que ça. Peut-être il y aura une personne qui n'est pas très gentille ou quelqu'un qui va nous faire un commentaire parce qu'on n'est pas très sportif et on est en train de jouer un sport ou d'apprendre un sport et ou qu'on n'est pas très bon qu'on joue pas très bien à cet instrument par exemple et que quelqu'un va nous juger ou nous dire un commentaire qu'on n'aime pas et on pense qu'on se protège en évitant en fait cette activité mais c'est vraiment l'inverse. Il faut vraiment être à l'aise avec ça. Il faut accepter le fait que oui, il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas gentil, mais en fait c'est pas ça, ça ne nous concerne pas, ça concerne la personne qui n'est pas gentille, ça concerne la personne qui fait un commentaire négatif. Parce qu'au contraire, on est en train d'essayer, on surmonte un peu ses peurs. Et aussi, il faut comprendre que c'est rare, c'est pas la norme. Oui, bien sûr, il y a toujours des bullies, surtout à l'école, ou même partout, même dans les lieux de travail.
Il ne faut pas que ça nous empêche.
Tu sais quoi ? Pense à la personne qui parle une autre langue. Pas sa langue natale, mais une autre langue avec un accent. T'apprends une langue, c'est un tout nouvel univers. Donc, si tu penses que tu vas être jugé, oui, tu seras jugé. Mais tu vas maîtriser une autre langue. Ça veut dire que si demain, tu as envie d'aller vivre au Royaume-Uni ou dans un pays limitrophe, eh ben, tu peux. Tu peux parce que tu maîtrises l'anglais, parce que tu maîtrises l'espagnol, l'italien. Oui, avec un accent, mais tu es capable de vivre là-bas.
C'est ça. Et on le voit toujours en anglais, par exemple, les gens qui apprennent l'anglais et qui ont un peu peur de parler avec un accent ou parce qu'ils n'ont pas trop de vocabulaire et qui sont hésitants ou qui sont un peu timides. Et c'est un peu une chance qui est un peu manquée parce que c'est en pratiquant ça, c'est comme un instrument qu'on pratique. Oui, on ne va pas être parfait de la première fois ou de la deuxième fois même. Ou peut-être on ne va jamais être parfait parce qu'il faut vraiment accepter cette imperfection parce que c'est la nature de la vie en fait.
C'est une très bonne.
La nature humaine même est imparfaite. Donc voilà.
Accepte l'apprentissage. Accepte de sortir de ta zone de confort. Accepte l'imperfection. Et en vrai, tu avanceras tellement, tellement, tellement. Donc si on reparle de tes premières années à l'université, tu t'engages associativement. Et j'imagine que tu développes une certaine confiance en toi, en fait, à force de pratiquer.
Oui. Et on a parlé de ça pendant les années lycée, comment développer la confiance en soi. Et ça, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter pendant les années universitaires. Et c'est vraiment à travers ces activités associatives que j'ai pu augmenter ma confiance en moi-même.
Et tu t'es lancé dans la recherche de stage, j'imagine, après tout ça.
Oui, alors les stages aussi, c'est dans un contexte similaire. Je me suis fixé un objectif de faire quelque chose chaque été. On avait des vacances d'été qui duraient 3 mois, donc à peu près. Et donc, je voulais faire une expérience professionnelle ou même académique qui allait enrichir mon parcours et mon CV. Et c'est pas seulement pour le mettre sur mon CV, mais aussi pour apprendre quelque chose sur des différentes professions. Parce que je savais que si je commence un peu tôt, pendant les années universitaires, à comprendre dans quel domaine je voudrais continuer, ça va m'aider à faire les choix plus tard, après avoir été diplômé. Et même chose pour choisir ses études de master plus tard, par exemple. Moi, je savais que je voulais continuer mes études en France et ensuite travailler. Et donc, pour avoir un bon dossier, pour avoir une bourse plus tard, je me suis fixé cet objectif d'avoir autant d'expérience professionnelle que possible pour avoir un bon dossier à la fin des 4 ans et aussi pour m'enrichir professionnellement et personnellement. Et donc, je me rappelle, à la fin de la première année, j'ai fait un stage de 2 semaines, vraiment c'était court, dans un journal. Et c'est à travers cette expérience que j'ai commencé en fait à savoir ce que je voulais pas faire.
Ce qui est très important.
Oui, et ça c'est important aussi. Et donc, j'ai fait ce stage parce qu'après la première année, c'est vraiment difficile de décrocher un stage. Parfois, il faut demander à des gens, parfois, il faut demander aux professeurs s'ils connaissent des gens, aux membres de sa famille, c'est possible, etc. Du coup, j'ai obtenu ce stage dans un journal égyptien, dans la section politique. C'était intéressant. Mais j'ai compris que je ne voulais pas devenir journaliste plus tard. Et ça, c'est bien parce que, vu que j'ai eu cette expérience, mais j'avais jamais pensé à devenir journaliste. C'est fini. C'est terminé pour le journalisme.
Intéressant. Et du coup, tu te rappelles pourquoi?
Je me rappelle pourquoi, oui. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais personnellement... J'étais très passionné par la recherche à l'époque, la recherche scientifique, dans tout ce qui est méthode de recherche, quand tu fais l'état de la recherche scientifique, dans tout ce qui a été écrit avant sur un certain sujet, ensuite tu commences à identifier les qui manquaient en fait dans ces recherches pour pouvoir contribuer au domaine. Après tu développes des hypothèses, après tu dois tester des hypothèses, après tu dois arriver à des conclusions, etc. J'étais vraiment impressionné par cette méthode en fait que je voulais absolument appliquer, et ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de pages quand on fait une recherche, et ça demande une certaine profondeur. Et dans le journalisme, vu que la nature du métier même, ça demande que tu publies un journal chaque jour, chaque semaine. Et donc, il fallait vraiment aller très, très, très vite. Il fallait écrire très vite. Il fallait parfois ne pas aller dans trop de détails parce qu'il n'y a pas d'espace. Parfois, il faut écrire d'une certaine manière parce que les lecteurs, ils vont pas comprendre si on écrit différemment. Et moi, j'ai pas aimé cet exercice. J'ai pas aimé le fait qu'on doit... vraiment s'adapter aux demandes en fait du métier ou du journal. J'ai pas trop aimé la rapidité de qui était demandée d'un journaliste en fait. Il faut vraiment bouger d'un sujet à un autre, etc. Ça correspondait pas trop à ma personnalité. Okay. Par contre, j'ai aimé l'expérience et j'ai aimé le fait que j'ai pu expérimenter quelque chose que je n'allais jamais faire, j'avais jamais pu faire dans ma vie.
Mais en fait, c'est super intéressant. Ça serait génial si on pouvait tous un peu enchaîner toutes ces expériences.
J'attends, et vraiment, c'est ça ce que j'adorais dans les années universitaires. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu n'as pas énormément de responsabilités. Bien sûr, certains étudiants ont des responsabilités. Où certains étudiants doivent vraiment travailler pour gagner de l'argent. Ça fait aussi partie de l'expérience. Si on travaille dans un magasin ou dans un restaurant, par exemple, peut-être c'est quelque chose qu'on ne fera plus dans sa vie plus tard. Et ça enrichit l'expérience personnelle surtout, mais aussi professionnelle, la manière de communiquer, la discipline, en fait, la manière de se présenter dans un milieu professionnel, comment communiquer avec ses supérieurs ou des clients, etc.
Donc, valoriser ces expériences pro en dehors des stages et des engagements associatifs peut finalement te permettre de décrocher ensuite le stage obligatoire. Après, ça reste à toi de les présenter en démontrant les liens entre les deux, comme tes capacités de travailler en équipe, ton adaptation, ta communication, etc. En parlant de stages obligatoires, Chérif, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les autres stages que tu as faits?
Alors, j'ai commencé avec le journalisme. Ensuite, comme j'étais passionné par la recherche, j'ai commencé à m'intéresser aux ce qu'on appelle les think tanks. Et les think tanks, c'est des centres de recherche qui font des conseils pour les décideurs politiques ou pour des partis politiques ou qui formulent des conseils pour des politiques publiques ou des politiques étrangères, c'est-à-dire qu'ils publient en fait des notes de recherche, mais pas pour un but académique, plutôt pour aider les décideurs à prendre des décisions basées sur des informations spécifiques ou sur une certaine perspective. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser dans ce domaine de recherche visée à soutenir les décideurs, d'une certaine manière. Ce qu'on appelle policy-oriented research en anglais. Et là, j'ai voulu commencer à faire des stages dans des think tanks. Ce sont des organisations très développées, surtout aux États-Unis, qui ont une importance énorme dans la prise de décision, que ce soit dans le Parlement, dans le Congrès, ou voire exécutif, donc la Maison Blanche, ou même les partis politiques. Et donc, il y a énormément de think tanks, de centres de recherche, qui sont à Washington, donc la capitale. Et donc, moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'un de ces centres de recherche. Et donc, après la troisième année, j'ai pu obtenir un stage dans l'un de ces centres de recherche à Washington. Et donc, je me suis déplacé et j'ai fait un stage de 3 mois.
C'est super intéressant. Et j'ai 2 questions. La première est, est-ce que ça a été difficile de trouver ce stage?
C'était pas très difficile, en fait. Et là, je dois expliquer, en fait, le processus par lequel je suis passé. D'abord, je me suis posé la question, pourquoi on va me choisir, moi, quelqu'un qui est dans un autre pays, en Égypte, qui aura besoin d'un visa, qui viendrait, se déplacerait vraiment de très loin, tandis qu'on peut trouver quelqu'un à Washington même, et ça va être beaucoup plus pratique. Et donc, il faut en fait un peu se mettre à la place de l'autre personne qui décide soit d'accepter notre candidature ou de la refuser. Et là, il faut identifier son avantage comparatif. Alors moi, j'ai pensé à l'époque, OK, mon avantage comparatif, c'est que je viens de la région du Moyen-Orient, parle l'arabe parce que c'est ma langue maternelle, et je connais cette région parce que j'ai vécu dans cette région, dans ce pays, etc. Et donc, quand j'ai pensé à la place du think tank, de l'endroit que j'ai embauché, je me suis dit, OK, si j'ai un étudiant américain ou même international d'un autre pays qui apprend peut-être l'arabe en tant que deuxième langue dans une université américaine ou qui est passionné peut-être par la région du Moyen-Orient, mais qui n'a jamais été, est-ce que je vais choisir cette personne même si cette personne est dans cette même ville ou dans ce même pays, ou bien je vais choisir la personne qui va vraiment apporter plus parce que cette personne connaît la langue, connaît la culture, connaît le contexte, etc. Et c'est là où j'ai identifié un peu mon avantage comparatif. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me porter candidat à ces stages dans des think tanks américains.
C'est une super approche. Donc, pense à identifier pourquoi tu seras un meilleur candidat, candidate, plutôt que te dire « mais en fait, il y a tellement mieux que moi, etc. etc. » Et ça m'amène à ma seconde question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as procédé dans ta recherche? Est-ce que tu as directement postulé à une offre de stage sur laquelle tu es tombé et que tu as trouvé? Ou tu as essayé d'identifier l'intégralité, ou du moins certains think tanks présents à Washington DC, avec un pôle Moyen-Orient? Tu peux nous en dire plus?
Je me suis porté candidat de différents think tanks. Il y avait un pôle Moyen-Orient, bien sûr, juste pour avoir un maximum de chances. Mais en même temps, j'ai dû faire un exercice un peu avant aussi, de comprendre ce que ces think tanks font exactement. Parce que je ne veux pas être dans un think tank qui a des valeurs, par exemple, qui contradisent mes valeurs personnelles ou qui a une tendance politique qui est contraire à ce que je pense moi-même. Parce que les think tanks aussi, ce sont des organisations qui ont des tendances politiques, que ce soit une tendance conservatrice, une tendance néo-conservatrice. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais les think tanks correspondent un peu au clivage politique et aux différentes idées politiques, aux partis politiques aussi. Aussi, il faut penser à ces valeurs aussi. Mais oui, donc j'ai fait la liste de ces think tanks, j'ai regardé un peu leur site, je voyais que chaque think tank, alors cette idée de stage d'été, c'était énorme pour les étudiants aux États-Unis, pour Washington en particulier, et donc c'est un peu différent qu'en France, parce que les stages en France sont plus réglementés par la loi. Aux États-Unis, en fait, les stages ne sont pas payés, la plupart au moins. au moins à Washington, dans les think tanks, les stages ne sont pas payés. Donc, il faut vraiment faire un sacrifice financier pour se déplacer, pour travailler là-bas. On nous donnait des tickets de métro chaque mois pour nous déplacer, mais à part ça, pas grand-chose. Mais je veux dire, si ce n'est pas accessible ou si ce n'est pas possible pour une personne, pour un étudiant ou une étudiante, de se déplacer dans un autre pays, pas du tout grave. Il y a toujours des opportunités où aller. Et il ne faut pas penser que si on ne se déplace pas ou si on ne voyage pas, ça va limiter notre expérience. Pas du tout, pas du tout.
Oui, non mais totalement. Et surtout, n'oublie pas que dans certaines grandes villes de certains pays, tu peux toujours trouver des stages ou des expériences un peu internationales, à caractère international. Et surtout, n'oublie pas qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de bourses qui peuvent te permettre de partir à l'étranger si c'est vraiment ton ambition et si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire et que tu peux le faire. Renseigne-toi un maximum au sein de ta fac, au sein de ton université, au sein de ton école. Et surtout, vérifie bien si pour les demandes de bourses, tu dois le faire en amont, donc bien, bien avant d'avoir trouvé l'offre, ou si c'est quelque chose que tu dois faire au moment où tu as trouvé l'offre. Donc, tu as vraiment besoin de te renseigner et donc tu dois être proactif, proactive pour avoir ces bourses. Sinon, Sharif, tu peux nous expliquer un peu la conclusion de ton expérience au sein du think tank?
Ah, c'est très intéressant. en fait, parler du Moyen-Orient à Washington, c'est hyper intéressant parce que les think tanks à Washington, c'est comme une communauté en fait. Et tout le monde se parle, et les experts, il y a des experts pour chaque pays ou pour chaque sujet qui intéresse une région particulière ou un domaine particulier. Et ces experts se connaissent. Il y a toujours des événements qui se passent dans chaque think tank où ces chercheurs ou ces experts parlent des résultats de la recherche ou d'un voyage qu'ils ont fait dans la région d'intérêt. C'est en fait une communauté un peu fermée entre eux. C'était intéressant de ce point de vue. L'expérience elle-même d'un think tank, encore une fois, comme le journalisme,
ouais. J'ai
réalisé que ce n'est pas pour moi. J'étais intéressé en fait par les think tanks parce que je me suis dit, c'est de la recherche, mais ce n'est pas de la recherche académique. Parce que la recherche académique, c'est d'écrire une thèse de 300 pages ou être vraiment spécialiste d'un sujet très, très niche, très, très limité, très étroit. Bon, je caricature un peu parce que j'ai des amis qui sont docteurs ou professeurs d'université, etc. Et qui sont brillants et je respecte beaucoup leur travail. Mais c'est aussi... C'est très limité en termes d'audience, de clientèle, en fait. Qui est-ce qui consomme ce produit, ce qui est une recherche ou un paper?
Quel est l'impact dans la société?
Quel est l'impact de la société? Et je reconnais vraiment que, oui, souvent, il y a un impact énorme. Souvent, il y a un avancement dans la science ou dans un certain domaine. Dans la compréhension, en fait, comment on comprend le monde, on comprend une société, ou dans un domaine scientifique, dans la médecine, dans les études pharmaceutiques, etc. Mais je me disais que dans les think tanks, on fait de la recherche, mais les consommateurs de cette recherche, c'est le public, parce que ces notes de recherche sont publiées sur des sites internet de ces think tanks. Deux, c'est les décideurs politiques. Et je pensais que, en fait, les décideurs politiques prenaient ces notes et prenaient leurs décisions en se basant sur ces informations ou ces recherches. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai réalisé que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des dynamiques de financement. Ces think tanks sont des organisations. Ils ont des employés. Ils ont besoin de l'argent. Il y aura toujours des organisations ou des personnes qui vont financer ces think tanks. Et ça dépend un peu de la source du financement. Parfois, ça impacte la direction que le think tank va prendre ou l'agenda de recherche, le choix même de sujet. Donc, ça dépend de quel pays va financer ce think tank. Aux États-Unis, certains acceptent des financements étrangers, certains think tanks n'acceptent pas. Il y a aussi l'agenda politique. Donc, j'ai pensé que ça impacte un peu l'objectivité de la recherche. Et donc, j'ai décidé que c'est pas ce que j'allais faire plus tard. Donc, encore une fois, c'était une expérience que j'ai eue. Je suis très content que j'ai eu cette expérience et j'ai réalisé que c'est pas pour moi.
Donc, savoir ce que tu veux pas faire, c'est tout aussi important que savoir ce que tu veux faire. Et est-ce que tu as fait un autre stage après ça?
Alors, après ce stage à Washington, j'ai fait un autre stage l'année suivante au CAIRP, dans un think tank aussi. Et là aussi, je veux souligner quelque chose parce que, oui, j'avais déjà réalisé que je ne voulais pas travailler dans un think tank. Mais parfois aussi, on ne peut pas avoir tout ce que dans ton rêve, je veux dire. Même si je ne voulais pas faire un stage dans un autre think tank, mais parfois, c'est juste le seul choix. C'est la seule option. Et quelque chose, c'est mieux que rien. Par exemple, après la quatrième année, et je voulais faire un stage, je me préparais pour partir en France pour commencer mon master. J'avais beaucoup de choses à faire, des papiers, des trucs administratifs, service militaire, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, je voulais quand même profiter de ces mois d'été pour avoir une autre expérience professionnelle. Je voulais faire un stage. Ce que j'ai trouvé, c'était un think tank au CAIRP. Parce que le stage, ce n'est pas seulement pour savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et ce n'est pas seulement pour remplir son CV, mais c'est aussi pour construire un réseau, faire des connaissances, savoir comment c'est de travailler dans des endroits différents, s'enrichir professionnellement et intellectuellement parce qu'on apprend des choses en travaillant sur des choses, voir un peu comment les gens interagissent dans un milieu de travail. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre dans un stage ou dans une expérience professionnelle quand on est jeune et quand on est à l'université.
Si tu penses que tu t'éloignes de ton objectif pro parce que tu n'as pas exactement le stage que tu souhaites, dis-toi que si tu trouves une opportunité comme celle-ci, il y aura forcément quelque chose à apprendre, à tirer, à saisir. Parfois, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas l'organisation ou le titre du rôle qui va t'apprendre tout ce dont tu as besoin. Mais c'est plus le mentor, la personne qui encadre ton stage ou les collègues que tu auras qui t'entourent, qui vont vraiment t'apprendre davantage.
Exactement. Et ce n'est pas nécessairement un stage aussi. Ça pourrait être quelque chose d'autre. Ça pourrait être une école d'été, par exemple, dans une université. Ça pourrait être... je ne sais pas, un cours ou même quelque chose de passionnant, un cours de musique, un truc qui n'a rien à voir avec notre étude. C'est complètement acceptable et même pas acceptable, c'est admirable en fait. Et ça enrichit la personne professionnellement et personnellement et tout ça. Bon, après la deuxième année aussi, je pense que je n'avais pas trouvé un stage et donc j'ai décidé de poursuivre des cours d'été dans une université aux États-Unis aussi. Et là aussi, j'ai appris quelque chose parce que tu parlais du financement. Les universités américaines sont très chères pour payer les frais et tout ça. Même si j'ai été accepté par une université pour poursuivre des cours d'été, je devais payer les frais. Et là, j'avais identifié une bourse que l'université offrait pour les étudiants pour enlever au moins une partie de ses frais. Et j'ai obtenu la bourse qui enlevait un tiers des frais. Et là, j'ai appris quelque chose aussi. En fait, mon frère à l'époque m'a dit « Essaye de négocier un peu avec eux pour voir s'ils peuvent peut-être élargir la bourse. » Parce que je devais me déplacer, je devais rester là-bas, dans un autre pays, etc. Et donc, tout ça, c'était des frais supplémentaires. Et là, en fait, j'ai appris quelque chose parce que j'ai fait ça. J'ai demandé de l'aide à mon frère à l'époque qui avait plus d'expérience que moi et qui m'a aidé à négocier avec eux, en fait, à leur écrire un mail. Il faut aussi... Oui, il faut demander des choses, mais il faut aussi apprendre comment demander des choses. Il faut demander de l'aide, mais il faut faire l'effort. Si quelqu'un envoie un message à quelqu'un d'autre sur LinkedIn, par exemple, pour demander de l'aide ou pour demander un conseil. Déjà, c'est bien de demander de l'aide, même à des gens qu'on ne connaît pas. Mais aussi, il faut être éloquent en demandant de l'aide. Il faut donner des informations, de contexte. Il ne faut pas juste aller dire « oui, je veux un job. Bon, un job dans quoi ? Tu es qui ? Qu'est-ce que tu veux exactement ?» Ça donne pas grand chose. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne pour comprendre comment cette personne va recevoir la chose. Et donc, à l'époque, j'ai demandé à l'université que j'ai dit, bon, je vais me déplacer d'un pays à un autre, je vais avoir beaucoup de frais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accroître, en fait, cette bourse? Et ils ont accepté, finalement. Et ça m'a appris aussi quelque chose. Que oui, il y a toujours des règles, mais parfois, on peut pousser, en fait, les barrières un peu. Parfois, on peut négocier. Parfois, on peut discuter des choses. Les règles sont créées par des êtres humains aussi. Et donc, il y a toujours des exceptions aux règles.
Et la mentalité suivante. Demande toujours, car tu sais jamais. Parce que l'important, c'est que tu n'aies aucun regret. Et que tu tentes, et que dans le pire des cas, ils te disent non. Et c'est pas grave.
On ne perd rien, en fait.
C'est
ça l'attitude qu'il faut avoir, toujours.
Exactement.
Exactement. Et les Anglais, ils disent « if you don't ask, you don't get ». Vraiment, si on ne demande pas, on va jamais savoir si ça existe ou pas, ou si c'est possible ou pas. Et on ne va jamais l'avoir, parce qu'on n'a pas demandé. Mais en demandant, déjà, on ne perd rien. Le pire qui peut se passer, c'est qu'on nous dise non. Et alors, au moins, on aurait essayé.
Tu te dis peut-être que c'est hyper gênant, que tu ne dois pas faire ça, que tu ne sais même pas comment commencer. Mais tu trouveras. Et si tu n'y arrives pas la première fois, en fait, tu apprends de tes erreurs. Et tu peux t'améliorer avec le temps sur ton approche, sur comment demander. Et en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, j'en suis sûre que tu peux te créer un petit prompt qui t'explique exactement comment demander. Donc, utilise également les outils qui sont à notre disposition.
Et souvent, c'est possible. Souvent, il y a des exceptions. Souvent, il y a quelqu'un, quelque part, qui décide, en fait. Et si on a la bonne manière, si on écrit les choses d'une façon gentille et éloquente et compréhensible, et si on explique bien sa situation, si on a des difficultés, etc., on obtient ce qu'on veut, en fait, ou on obtient quelque chose, au moins. Et c'est ça l'attitude aussi qu'on devrait avoir. Ouais.
Et sur ce super conseil, je te dis à très très vite, car cet épisode sera en deux parties. Il y a beaucoup trop de conseils en fait dans cet épisode, du coup on revient très vite.